Bonsoir à tous, c'est l'un des metteurs en scène les plus en vue du moment. On vient de lui confier la direction du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence et il fait actuellement ses débuts à l'Opéra Comique dans une merveilleuse production de Werther de Massenet dirigée par Raphaël Pichon. Ted Hoffmann sera à notre micro tout à l'heure. Et puis Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser cette semaine le portrait de la jeune chef d'orchestre Alizée Léon. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. J'en ai trop fait et ça a failli me tuer. Le chef d'orchestre Ben Glasberg s'est confié avec beaucoup de sincérité sur sa dépression, sa tentative de suicide et son hospitalisation dans un entretien au site Backtrack. Une situation extrême qui a également eu pour effet la révélation de son homosexualité. Ben Glasberg, qui va mieux, qui fait actuellement son grand retour à l'Opéra de Rouen, dont il est cette saison encore le directeur musical. Il sera ainsi dans la fosse de l'Opéra de Rouen pour diriger une nouvelle production du Vaisseau Fantôme du 27 janvier au 3 février dans une mise en scène de Marie-Ève Signerol avec Alexandre Duhamel dans le rôle du Hollandais. Et puis Ben Glasberg clôturera son aventure rouennaise les 26 et 27 juin avec un grand concert de gala qui sera d'ailleurs capté par nos micros. C'est à lire sur le site et sur l'appli de Radio Classique, un article de Philippe Gau. Outre le retour très attendu de Ben Glasberg à Rouen et le Werther de l'Opéra Comique que l'on évoquera tout à l'heure, l'une des autres productions lyriques attendues du moment s'installe à l'Opéra Royal de Versailles dès samedi et jusqu'au 28 janvier. Une sublime production d'Attis de Lully, mise en scène chorégraphiée par Angelin Preljocage et dirigée par Leonardo Garcia Alarcón. Une production absolument onirique qui avait été créée en 2022 à Genève, dans laquelle les danseurs sont omniprésents et les chanteurs participent également à la danse. L'ouverture d'Attis de Lully par Leonardo Garcia Alarcón et sa Capella Mediterranea. Ils seront du 24 au 28 janvier à l'Opéra Royal de Versailles pour la reprise de cette magnifique production d'Attis qui marquait les débuts d'Angelin Preljocage dans le monde de l'opéra.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est à l'Opéra Comique, juste avant la générale de Werther, que je suis allée rencontrer samedi le metteur en scène américain Ted Hoffmann. Ted Hoffmann qui vit un début d'année d'une grande intensité émotionnelle puisqu'il fait ses débuts à l'Opéra Comique, ses débuts dans l'œuvre de Massenet et puis ses débuts en tant que directeur du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Alors dans quel état d'esprit aborde-t-il cette nouvelle année? On écoute Ted Hoffmann.
Ça, c'est une bonne question. Moi, je suis vraiment dans l'opéra Werther maintenant parce que on vient de répéter ce mois et alors ma tête, c'est vraiment dans la musique de Massenet et dans ce texte qui est si triste mais si touchant en même temps.
Alors, c'est la première fois que vous mettez en scène cet opéra de Massenet, mais vous n'êtes pas le seul à faire vos débuts dans cette œuvre. C'est le cas de Raphaël Pichon, qui le dirige pour la première fois. Il y a beaucoup de prises de rôle, scéniques en tout cas, Pénépati, Adèle Charvet, Julie Rosé. Est-ce que finalement, le fait d'être tous quelque part vierges par rapport à cette œuvre, c'est un atout? Est-ce qu'on est plus libre?
Oui, je crois qu'on a une liberté aussi, on peut apporter un regard nouveau sur l'œuvre comme ça. parce que c'est les gens qui ont peut-être chanté en concert, mais qui font ça pour la première fois sur le plateau. Alors c'est vraiment une chance.
Et qu'est-ce qui vous a touché vous-même dans cette œuvre? Qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter cette mise en scène?
En fait, c'était que Raphaël m'avait parlé, m'avait dit que lui, il avait l'idée de faire un Werther, que ça serait avec Penne et Patti. Et c'était presque que ça qui m'a convaincu, mais aussi j'avais écouté beaucoup l'œuvre dans ma cuisine quand je préparais mes dîners. Et là, j'ai entré vraiment dans la psychologie de la musique de Massenet, et depuis ce temps, j'adore l'œuvre.
C'est vrai que c'est une œuvre qui met en avant des personnages torturés, qui va au plus profond de leur âme. Comment est-ce que Massenet, justement, traduit-il cette psychologie des personnages? Qu'est-ce que, dans la partition, vous aide à rentrer dans leur âme?
Bon, il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose un peu formel, c'est que l'opéra commence avec pas mal de personnages. On a la famille de Charlotte, le bailli qui est son père, tous les enfants, les amis de cette famille. Et petit à petit, c'est réduit, alors que la dernière acte, c'est que Werther et Charlotte. Alors, il y a un mécanisme formel d'aller plus loin dans la psychologie de ces deux gens. Et après, dans la musique, je crois que c'est que il y a rien de surjeu dans la musique ou presque rien. C'est plutôt que la musique parle de la tristesse, mais d'une manière très beau, mais aussi qui permet beaucoup d'intimité. Ça c'est dans l'harmonie, mais la relation entre les mots et la musique, ça a une réalité assez rare.
Alors j'ai pu discuter avec certains des chanteurs de cette production qui m'ont dit à quel point ils étaient émus pendant les répétitions, voire en larmes. Vous avez senti, Ted Hoffmann, de la part de ces chanteurs ou chanteuses, cet engagement, une façon aussi de vivre ce drame de façon si intense?
Oui, je crois que c'est juste que nous, on a regardé le matériel et on a essayé de le faire avec honnêteté, et ça, c'est vrai que c'était dur de temps en temps parce que les pensées de ces personnages sont très dures à écouter.
Un duo de Werther et Charlotte, chanté ici par Jerry Hadley et Anne-Sophie von Otter, dans l'enregistrement de l'orchestre de l'Opéra de Lyon, sous la direction de Kent Nagano. Alors c'est Penne et Patti et Adèle Charvet qui incarnent dans cette nouvelle production de l'opéra comique Werther et Charlotte, confrontés donc à un amour impossible qui conduira au drame. Et c'est, comme à son habitude, un décor dépouillé que Ted Hoffman a imaginé, avec juste quelques éléments, quelques meubles, une table, des chaises, que les interprètes de cette production déplacent eux-mêmes au gré de l'évolution de l'action. Et pour terminer, presque rien, un décor nu, le dépouillement total pour l'une des scènes les plus poignantes du spectacle, durant laquelle il est d'ailleurs difficile de retenir ses larmes. Peu d'éléments de décor, mais un subtil jeu d'acteurs. Ce sont aux chanteurs d'incarner le drame. Ted Hoffman nous raconte justement son travail théâtral avec ses interprètes.
Je travaille avec eux comme si c'était du théâtre. Alors on commence avec juste les paroles et on le fait beaucoup en parlant. Et puis on ajoute la musique, mais on traite la musique comme un autre texte parlé, c'est-à-dire que j'essaie de créer le théâtre en musique.
Mais est-ce que tout est très précis, tout est très calculé dans les gestes, ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation?
Oui, au contraire, je dirais qu'on discute beaucoup les personnages et comment ils sont dans leur corps. Et après, j'essaie de donner ou d'inspirer les chanteurs à avoir une grande liberté d'improviser sur scène chaque fois, et que ça apporte quelque chose qui n'est pas figé et qui reste dans le moment.
Et qu'est-ce qui vous touche ou qu'est-ce qui vous surprend, Ted Hoffman, dans ce travail avec les chanteurs, ce travail d'acteur avec les chanteurs lyriques? Je pense à quelqu'un comme Pene Pati, qui est quelqu'un de tellement solaire et à qui on demande d'entrer dans la peau d'un personnage si torturé. Comment percevez-vous justement son engagement dans ce personnage?
Je crois, honnêtement, c'était assez lourd pour lui d'aller dans ce personnage. Il doit se mettre dans le peau de quelqu'un qui va se suicider, et ça c'est très lourd pour Pene, je crois, de le faire chaque jour. Et on a parlé de ça, on a parlé de comment après les répétitions on peut manger ensemble et on peut rire un peu avant de partir, parce que c'est lourd.
Mais ce n'est pas la première fois que des chanteurs qui participent à une production de Werther me disent à quel point c'est lourd pour eux, et que même dans leur vie, lorsqu'ils quittent le théâtre, ils sont hantés quelque part par cette histoire, par ce personnage. Est-ce que pour un metteur en scène aussi, c'est difficile? Est-ce qu'on est torturé aussi quelque part?
Oui, mais je crois que moi j'ai pensé à ces idées depuis longtemps. Alors peut-être mon processus c'est un peu avant leur processus de création. Mais pour moi aussi, j'ai pleuré pendant les répétitions. J'ai été très ému, et moi j'ai beaucoup de respect pour eux, parce que eux ils sont vraiment ouverts comme comédiens d'aller très loin dans la situation, dans les pensées, et juste pour dire, c'est rare d'avoir les chanteurs qui sont d'accord de faire ça et qui savent faire ça. Moi je trouve ça très touchant.
Et votre collaboration avec Raphaël Pichon, Ted Hoffman, c'est la première fois que vous travaillez avec lui?
Oui, en fait, on se connaît depuis longtemps, parce que on était tous les deux à l'Académie d'Aix-en-Provence en 2012, je crois. Alors, on se connaît, longtemps, mais on a toujours voulu faire les choses ensemble, mais c'est la première fois.
Et comment est-ce que vous concevez ce duo, metteur en scène, chef d'orchestre?
Nous avons beaucoup parlé vraiment des idées là-dedans, des personnages. Nos conversations avant de commencer les répétitions étaient tous sur les personnages, de comment on voulait les traiter, comment on trouvait une phrase et comment ça peut changer le sens de l'œuvre. Alors honnêtement, c'était que ça. Et puis quand on est dans la salle de répétition, je crois que tous les deux on cherche les mêmes choses. On cherche l'honnêteté, on cherche un sort de réalisme ou un sort de vérité. Sans être trop réaliste, mais vérité, parce que peut-être réalisme et opéra ne sont pas quelque chose qu'on met ensemble.
Pourquoi me réveiller, célèbre air du Werther de Massenet, chanté par Pénépathy, accompagné ici par l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine et Emmanuel Villaume. Pénépathy, qui incarne un bouleversant Werther aux côtés d'Adèle Charvet et de Julie Rosé, entre autres, dans cette nouvelle production de l'Opéra Comique, dirigée par Raphaël Pichon à la tête de son orchestre Pygmalion, et mise en scène par Ted Hoffman, c'est à découvrir jusqu'au 29 janvier, sachant que la représentation du 23 janvier sera diffusée en direct sur Arte. Alors Ted Hoffman vient par ailleurs de prendre les rênes du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, un festival où il a fait ses débuts en 2012, au sein de l'Académie, aux côtés d'ailleurs notamment de Raphaël Pichon. Il nous raconte ce soir son histoire avec Aix-en-Provence et ses projets pour le festival.
Je suis tombé amoureux de ce festival et de cette ville la première fois que j'étais là-bas. Alors depuis 2012, c'est une sorte de maison artistique pour moi. Beaucoup de mes amis, mes proches sont aussi passés par l'académie. Je dirais que l'ambiance de travailler à Aix, c'est très unique, très rare. Dans cette magnifique ville, plein de soleil, d'être autour de 5 équipes artistiques, Et d'avoir une grande liberté artistique, c'est très rare. Moi, j'ai créé beaucoup de mes meilleures œuvres à Aix. C'est un des lieux où je me suis le plus épanoui artistiquement de tous les lieux.
Comment concevez-vous ce rôle de directeur d'un festival ? C'est la première fois que vous dirigez, je crois, une institution. Qu'est-ce que ça représente pour vous comme responsabilité, comme rôle ?
En fait, j'ai commencé ma carrière comme directeur général d'un très petit festival aux États-Unis. Alors, c'est la deuxième fois que je fasse ça. C'est vrai que la taille de ces deux festivals se sont très différents, mais j'ai quand même une grande expérience de faire ça. J'ai fait ça pendant 9 ans. Alors, c'est pas loin de mes pensées de diriger au long terme une équipe, de construire vraiment une culture de comment on veut créer les choses et pas juste des productions. Alors pour moi, les équipes à Aix, je trouve qu'ils sont géniales. C'est pour ça que je voulais travailler avec eux à Aix, parce que je les connaissais déjà et je connais le niveau de travail qu'ils font.
Et avec quelle mission, quels projets, quelles idées arrivez-vous?
Je crois que ça va pas surprendre les gens, parce que j'ai toujours cru qu'il faut mettre en avant la création, il faut mettre en avant les jeunes talents. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aussi, moi, je veux avoir des titres dans le festival qui sont plus légères, des fois des comédies. Alors, je veux vraiment faire le maximum pour trouver un nouveau public pour l'opéra.
Mais comment, justement, des formes plus légères, des petites formes? Est-ce que pour toucher un nouveau public, il faut faire référence à la société d'aujourd'hui, aux enjeux de la société, ou au contraire, essayer de leur faire oublier les troubles du monde?
Je crois que c'est un exercice d'équilibre, de continuer à avoir les grands stars de l'opéra et de faire des grandes productions, mais aussi de faire les petites formes et d'avoir beaucoup plus de création que dans le passé. Et je crois que pour moi, c'est pas une question de créer des œuvres ou des productions qui sont ou faciles ou difficiles pour le public. Je crois que si une production est bien, ça touche les gens, même si c'est un sujet très difficile, même si c'est un sujet très léger. Alors je crois que ça peut fonctionner dans les deux sens. Je veux attirer les publics qui aiment déjà Aix, et aussi donner les choses pour les gens qui peut-être connaissent moins l'opéra, alors créer des choses où eux ils peuvent découvrir les choses un peu plus léger, un peu plus contemporain.
Et que diriez-vous justement, Ted Hoffman, à ce public qui n'ose pas venir à Aix-en-Provence ou qui n'ose pas aller à l'opéra, qui pense que l'opéra n'est pas pour eux?
Moi aussi, je trouve que souvent l'opéra, il y a des codes que je comprends pas, ou les codes qui me semblent d'une autre époque. Mais je crois que l'opéra, on peut le définir maintenant pour nous. Et je crois que la musique, les mises en scène peuvent parler à tout le monde, honnêtement.
Alors vous allez cet été et l'été suivant défendre la programmation de Pierre Audi. C'est un exercice particulier de porter une programmation pensée par un autre.
Oui, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Pierre et c'est vraiment l'honneur d'accompagner sa programmation. Bien sûr, moi, j'ai fait partie de sa programmation depuis longtemps, en fait, depuis 15 ans maintenant, parce qu'il m'a engagé à Amsterdam et puis à Aix souvent. Alors, je suis très fier d'accompagner sa programmation.
Et vous allez signer quelques mises en scène que Pierre Audi, d'ailleurs, déjà vous a commenté, je crois.
Oui, c'est vrai. Il m'avait déjà engagé comme metteur en scène pour 27. Alors, je vais continuer avec ce projet-là et peut-être aussi un projet en 28 qu'il avait commencé.
Sabine Devielle en Reine de la Nuit avec Raphaël Pichon et Pygmalion. Un rôle qu'elle reprendra cet été au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence dans une nouvelle production dirigée par Leonardo Garcia Larcón et mise en scène par Clément Cogitor. Le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence qui se tiendra du 2 au 21 juillet. Alors la programmation est en ligne et la billetterie ouvre dans quelques jours, notez-le bien, le 27 janvier pour les abonnements et le 3 février pour les places à l'unité.
Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec Le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, une jeune Alizée dans le vent.
Eh bien bravo, mais oui, Alizée Léon. Et à seulement 25 ans, eh bien, cette jeune Provençale risque fort de faire parler d'elle dans les semaines à venir. On vient en effet d'apprendre sa nomination aux prochaines victoires de la musique classique dans la catégorie des révélations chefs d'orchestre. Elle succède ainsi à Simon Proust, Marie Jacquot ou encore Victor Jacob, récipiendaire des précédentes éditions et qui mène depuis de belles carrières, que ce soit comme chef invité ou bien en poste de directeur musical. Mais comme si ça ne suffisait pas, et bien la jeune femme est aussi l'une des candidates de la prochaine édition du concours de direction de la Maestra, organisée conjointement par la Philharmonie de Paris et le Paris Mozart Orchestra, et dont la quatrième édition donc se déroulera à Paris du 23 au 28 février, soit presque un mois avant la cérémonie des victoires. Et Alizée Léon y est, figurez-vous, la seule Française parmi les 16 talents internationaux retenus pour les épreuves finales, ce malgré une rude concurrence, puisque le nombre de postulantes avoisinait cette année les 250. C'est dire si l'on suivra son parcours sur la compétition.
D'autant que la jeune chef n'est pas tout à fait une inconnue, Thierry.
Eh bien, c'est vrai. Elle a été nommée cette saison, d'ailleurs, et jusqu'en 2027, chef assistante à l'Orchestre National d'Île-de-France. Elle accompagnera donc la fin de mandat d'une baguette qui nous est chère sur cette antenne, celle de Caisse Caglione. Mais elle est aussi bien connue du monde associatif, où elle dirige depuis maintenant 3 ans l'ensemble des formations musicales du COJ, les chœurs et orchestres des grandes écoles, par exemple, dont une partie participera d'ailleurs cette semaine à la Music Fest à la Philharmonie de Paris. Et puis elle est aussi chef de l'orchestre Demos de Metz, et malgré tous ses engagements, eh bien elle commence à se faire un nom à l'opéra en tant que chef invité. Après avoir dirigé l'Histoire du soldat Stravinsky au Théâtre du Châtelet, c'était en juin dernier, on la retrouvera à la fin de ce mois de janvier dans la fosse de l'opéra de Tours pour la reprise de l'enlèvement au sérail en français dans la mise en scène pleine de drôlerie et d'inventivité de Michel Faux, créée à Versailles, c'était il y a quelques années.
Alors il faut dire, Thierry, qu'avec elle, le talent n'a jamais attendu le nombre des années.
Et non, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ses débuts dans la musique, cette membre d'une famille de 5 enfants où tout le monde pratique un instrument, elle les a fait à La Ciotat à l'âge de 4 ans, en commençant par le violon, rien de très original, me direz-vous, mais ce qu'il est un peu plus, c'est l'âge auquel elle a commencé la direction d'orchestre, 14 ans. C'était au Conservatoire de Montpellier, à raison déjà d'un cours par semaine, et déjà armée d'un fort bagage de violon, mais aussi de piano. Sa vocation de chef, eh bien, elle l'a très tôt ressentie comme une évidence, explique-t-elle, sans bien savoir si cela lui vient du violon, qui l'a incité très tôt à être poussé devant l'orchestre, ou bien du plaisir d'analyser ses partitions. Toujours est-il que cet élève précoce n'a pas eu longtemps à attendre avant de pouvoir confirmer sa vocation. Le bac en poche à 16 ans, elle s'installe à Paris, intègre d'abord le conservatoire d'Aubervilliers, et puis c'est la classe de direction d'Alain Altinoglu au CNSM de Paris, la voix royale dont elle vient tout juste d'être diplômée. Gageons qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle, d'autant que celle qui a fait son mémoire sur la musique en milieu carcéral semble avoir mieux que quiconque pris la mesure des nouveaux enjeux sociétaux de nos orchestres.
Quelques notes de Cavalleria Rusticana de Mascagni, dirigée par Alizée Léon, à la tête ici de l'orchestre Playing for Philharmonie. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait
Merci
de cette
vous,
jeune chef d'orchestre. Merci à Thomas Clini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Christophe Rousset. Très belle suite de soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.
Radio Classique. La musique avant tout.
Minuit. Votre soirée classique. Sur Radio Classique.
Classique. La musique avant tout.
Thank you.
Votre soirée classique sur Radio Classique.